VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mardi 29 août 2017, en direct de Washington, Abdelrahman Dia et Anne Alberson, et on démarre par les titres.
Après les manifestations meurtrières d'il y a quelques jours au Togo, le parti au pouvoir veut montrer sa force en mobilisant ses militants les trois prochains jours.
La justice nigériane ordonne la saisie de 21 millions de dollars appartenant à l'ex-ministre du pétrole accusé de corruption.
Bras de fer entre la Guinée équatoriale et le géant pétrolier français Total. Au centre du conflit, 48 milliards de francs CFA.
Washington et Tokyo saisissent le Conseil de sécurité après un nouveau tir de missile nord-coréen qui a survolé le Japon.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports.
Mais tout d'abord, le journal.
Situation politique tendue au Togo où les partisans du parti au pouvoir Unir comptent manifester pendant trois jours à compter d'aujourd'hui, et cela au moment où l'opposition demande des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Des détails avec Kayi Lawson, notre correspondante à Lomé.
L'Union pour la République Unir, le parti au pouvoir, va mettre dans les rues ses militants et sympathisants. Le parti du président togolais Faure Gnassingbé dit vouloir marcher pour la paix au Togo. Baptisé Marche pour la paix, par ses manifestations, Unir entend soutenir les institutions de la République et dénoncer les actes de violence commis contre les forces de l'ordre et de sécurité dans leur mission, annonce un communiqué du parti. Pour certains observateurs, ces manifestations du parti au pouvoir ne sont qu'une démonstration de force en réponse à la mobilisation du Parti national panafricain PNP du 19 août dernier. Ces marches ne sont pas destinées à s'opposer à qui que ce soit, a déclaré Gilbert Bawara, un cadre du parti. Elles visent plutôt à réaffirmer l'attachement du parti Unir et de ses militants à la démocratie, à l'état de droit, a-t-il soutenu. Cette formation politique dit être engagée à réaliser les réformes exigées par l'opposition dans un esprit consensuel. Sauf que dans les faits, cette bonne volonté affirmée du parti au pouvoir patine depuis 11 ans. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Nigeria, une cour de justice a ordonné hier la saisie bancaire de 21 millions de dollars appartenant à l'ex-ministre du pétrole Yezani Alison Madueke. Il est accusé de corruption et nombre de ses biens ont déjà été confisqués. Les explications d'Eric Manirekiza.
Yezani Alison Madueke est tombé sous le coup de la décision du juge de la Cour fédérale de Lagos, Abdelaziz Anka. La saisie bancaire fait suite à la confiscation de ses propriétés d'une valeur de plus de 44 millions de dollars à Lagos et des biens de l'ordre de 7 millions de dollars dans le pays. La Commission des crimes économiques affirmait que les comptes ont été ouverts dans des banques locales alors qu'elle était à la tête du ministère des hydrocarbures entre 2010 et 2015. Madame Alison Madueke était l'une des figures de l'ancien gouvernement de Goodluck Jonathan. Elle a été la première femme à la tête de l'OPEP entre 2014 et 2015. Elle est en liberté sous caution à Londres après son arrestation dans le cadre d'une autre enquête au Royaume-Uni. Elle concerne un vaste scandale de corruption et de blanchiment d'argent. Son nom est également cité dans une plainte visant deux hommes d'affaires nigériens aux États-Unis et dans une enquête en Italie sur un contrat pétrolier de plus d'un milliard de dollars.
La Guinée équatoriale réclame 48 milliards de francs CFA au géant pétrolier français Total pour fraude dans la vente de carburant entre 2010 et 2012. Le point avec Morgane Guiriec.
Le ministre équato-guinéen des Finances, Miguel Egonga Obiang, a déclaré qu'après des investigations, son pays a trouvé une situation suspecte et frauduleuse dans la vente de carburant entre 2010 et 2012. Le gouvernement exige que le géant pétrolier français présente une proposition d'arrangement. Contacté par l'AFP, la direction de Total en Guinée équatoriale n'a pas répondu. Malabo dit avoir transmis le dossier à la justice pour déclencher une procédure judiciaire. Pour rappel, Théodorin Nguema, vice-président et fils du président équato-guinéen, est jugé en France dans l'affaire dit des biens mal acquis. La justice française a requis à son encontre 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de biens saisis, dont un immeuble évalué à plus de 100 millions d'euros.
L'activiste franco-béninois Kemi Seba fera face au juge des flagrants délits aujourd'hui à Dakar. Il a été arrêté vendredi dans la capitale sénégalaise après avoir brûlé lors d'un rassemblement un billet de 5 000 francs CFA pour protester contre cette monnaie qu'il qualifie de coloniale. La BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, avait porté plainte contre Kemi Seba pour destruction volontaire et publique d'un billet de banque.
Au Congo, des femmes proches du président Denis Sassou Nguesso appellent les autorités à tout mettre en œuvre pour rétablir la paix dans la région du Poule avant la rentrée scolaire prévue en octobre. Nous sommes fatigués et demandons que les autorités créent les conditions d'un retour définitif à la paix, a déclaré la chanteuse Michaëlle Moutouari, présidente de l'association des jeunes mères du Congo, devant environ 2000 personnes à Brazzaville. Le Poule a replongé dans des violences depuis avril 2016, après la réélection contestée de M. Sassou Nguesso l'an dernier.
L'ONG Human Rights Watch estime dans un communiqué que l'élection présidentielle du 8 août au Kenya a été entachée de graves violations des droits humains. L'organisation fait état de meurtres et de passages à tabac commis en toute illégalité par la police ainsi que la répression de manifestations dans l'ouest du pays. Au moins 12 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées. Human Rights Watch appelle les autorités kenyanes à enquêter sur ces crimes et dénonce l'usage excessif de la force par la police.
Le chef de l'agence de coopération américaine, Mark Green, a dit espérer une amélioration dans l'accès à l'aide humanitaire dans la région du Darfour au Soudan. C'était lors d'une visite dans un camp de déplacés. Cette visite du patron de l'USAID se tient au moment où Washington doit décider s'il va lever ou non les sanctions prises contre Khartoum. Les États-Unis ont imposé des sanctions au Soudan en 1997 pour son soutien présumé à des groupes islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Paris a abrité hier un mini-sommet sur la crise migratoire. Le président français Emmanuel Macron a proposé d'identifier dès le Niger et le Tchad les ressortissants qui ont droit à l'asile. Le point avec Bagassi Koura.
Pour Emmanuel Macron, cette procédure permettra de donner l'asile dès les territoires africains dans des zones identifiées pleinement sûres au Niger et au Tchad sous supervision du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. L'identification se fera sur des listes du ACR avec des migrants dans ces pays de passage. Il a déclaré qu'il y aura parfois une présence militaire pour prévenir les débordements et l'accroissement de flux vers la Libye. Le président tchadien Idriss Déby Itno s'est dit habitué à des annonces des partenaires depuis des années et qu'il faut maintenant des choses concrètes. Pour le président du Niger, Mahamadou Issoufou, il est insupportable que des milliers d'Africains viennent mourir dans le désert et en Méditerranée. Le problème, c'est la pauvreté, a admis la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Selon elle, il n'y a pas besoin d'inventer un nouveau plan Marshall, rappelant que les pays membres de l'Union européenne investissent chaque année 20 milliards d'euros sur le continent.
La situation d'urgence se poursuit au Texas, où 12 000 soldats de la garde nationale ont été mobilisés face aux inondations monumentales causées par la tempête Harvey, qui ont notamment paralysé la métropole de Houston. La menace principale reste la montée des eaux. À Houston, quatrième ville des États-Unis avec 2,3 millions d'habitants, des milliers de personnes sont sans abri. Le président Donald Trump et son épouse se rendent sur place ce mardi. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Le président américain Donald Trump, d'ailleurs, et le premier ministre japonais Shinzo Abe ont décidé d'accentuer la pression sur le régime de Pyongyang après le tir d'un missile nord-coréen qui a survolé le Japon. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité se tient ce mardi à New York. Nous devons immédiatement tenir une réunion d'urgence aux Nations Unies et augmenter la pression sur la Corée du Nord, a déclaré M. Abe à Tokyo à l'issue d'un entretien téléphonique d'une quarantaine de minutes avec le dirigeant des États-Unis. Ce nouveau tir de missile survient dans un contexte de tensions exacerbées et de guerre de rhétorique entre Washington et Pyongyang.
Au Venezuela, l'Assemblée constituante va enquêter sur Julio Borges, le président du Parlement. Il est soupçonné d'avoir encouragé les sanctions financières des États-Unis. Le Parlement est contrôlé par l'opposition, mais l'Assemblée constituante, qui a ouvert l'enquête, détient les pleins pouvoirs dans ce pays en crise. D'autres opposants qualifiés d'apatrides sont également visés, car ils ont ouvertement demandé le blocus du Venezuela, selon cette institution.
Le Brésil courtise la Chine. Le président brésilien Michel Temer se rend ce mardi en Chine où il espère attirer des investisseurs et s'apprête à lancer le plus ambitieux projet de privatisation du pays en une vingtaine d'années. Nous espérons que la Chine sera intéressée par les privatisations que nous allons mener et pourra apporter des capitaux au Brésil, a déclaré Michel Temer à la télévision d'État chinoise.
Et puis le réseau social Facebook va interdire de publicité les pages renvoyant régulièrement vers de fausses infos, les désormais célèbres fake news. Les fausses informations sont devenues un sujet de débat avec l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis fin 2016. Ces fake news ont été accusées d'influer sur le vote des électeurs. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
L'actualité économique sur le continent, c'est la Minute Éco avec Dili Diko.
En 2016, le tourisme a rapporté plus de 35 milliards de dollars à l'Afrique, soit une hausse de 8% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation s'explique par la facilitation des procédures d'obtention de visa et l'amélioration des conditions sécuritaires. 58 millions de touristes ont visité l'Afrique en 2016, une hausse de plus de 4 millions par rapport à l'année précédente. En RDC, les autorités ont mis en place une restriction temporaire d'importation de plusieurs produits de grande consommation dans l'ouest du pays. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce, a indiqué qu'il s'agit d'une interdiction de 6 mois dont l'objectif est de lutter contre la contrebande et protéger l'industrie locale de ceux qui pratiquent des prix en dessous du coût de production. Les produits concernés sont le ciment gris, le sucre, la bière et les boissons gazeuses. Le ministre a également interdit l'exportation des écorces de quinquina pour privilégier leur transformation en antipaludéens par l'industrie pharmaceutique congolaise. Au Nigeria, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, veut construire une université de classe mondiale à Abuja. La fondation Dangote a annoncé un financement de 550 millions de dollars. L'université sera axée sur la technologie et réunira des enseignants de renommée mondiale.
À présent, la page des sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Abdourahmane, bonjour à tous.
Football sur le continent pour commencer, le Zamalek d'Égypte tient son nouveau coach.
Tout à fait. Abdourahmane, après avoir essuyé de nombreux refus de la part de plusieurs techniciens, le Zamalek a dévoilé hier son nouvel entraîneur. Il s'agit du Monténégrin Jovović qui s'est engagé pour les deux prochaines saisons. Le technicien de 42 ans devrait gagner 40 000 dollars par mois. Jovović remplace le Portugais Augusto Inácio, viré en juillet dernier. Troisième du championnat et sorti en demi-finale de la Coupe d'Égypte, le Zamalek a été également éliminé de la Ligue des champions en phase de groupe.
Ousmane Dembélé a foulé pour la première fois la mythique pelouse barcelonaise.
Tout à fait, l'attaquant français recruté vendredi par le FC Barcelone pour 147 millions d'euros bonus y compris, a été présenté au Camp Nou hier devant 18 000 supporters. Arrivé pour 5 ans, Dembouze, comme on l'appelle affectueusement, a hérité du numéro 11 de Neymar avec la lourde tâche de succéder aux Brésiliens au sein de la ligne d'attaque du Barça. À 20 ans, le français devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire des transferts derrière les 222 millions d'euros de Neymar.
Joie de Dembélé, colère de Seri qui a manqué de peu d'être en blaugrana cette saison.
Et oui, le milieu ivoirien de Nice, Jean-Michel Seri, pressenti pour rejoindre le FC Barcelone avant que les négociations se grippent, a vivement reproché aux dirigeants niçois de n'avoir pas tenu leurs promesses. Seri, 26 ans, explique que l'opération ne s'est pas concrétisée à cause des exigences financières de l'OGC Nice qui a demandé plus de 40 millions d'euros au Barça avant la libération du joueur. Le sort de l'ivoirien a été scellé hier par le club espagnol qui a déclaré que la piste Jean-Michel Seri est désormais écartée.
Par contre, c'est fait pour le Guinéen Naby Keïta qui rejoint Liverpool.
Le milieu de terrain offensif arrive du club allemand Leipzig où il a explosé la saison écoulée. Keïta a paraffé un contrat de 4 ans avec les Reds contre un chèque de 55 millions d'euros. Leipzig pourra compter sur son joueur toute cette saison car le Guinéen ne rejoindra l'Angleterre qu'au 1er juillet 2018.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Diab, toujours en votre compagnie sur VOA Afrique. Parlons à présent des dossiers du jour et une coutume ancestrale burundaise appelée Niko Zumwakpa et qui incite les femmes a accepté sa soumission et aujourd'hui remise en cause par certaines d'entre elles face à la maltraitance dont elles sont souvent victimes. Certaines n'hésitent plus à prendre leur destin en main. Reportage à Bujumbura avec notre correspondant Christophe Kourounziza.
Une bande de joyeux enfants joue ensemble dans une parcelle située dans un des quartiers populaires de Bujumbura. Parmi ces enfants, 4 vivent avec leur grand-mère. Leur maman, après 15 ans de vie commune avec son mari, a finalement quitté son mari qui l'a maltraité au quotidien. S'il est vrai qu'il est au courant de la coutume appelée Niko Zumwakpa qui appelle les femmes burundaises à accepter tous les caprices du mari pour protéger le ménage, la femme a finalement jeté l'éponge. Témoignage.
Bon, j'ai vécu pendant 15 ans ensemble avec mon mari, mais 10 ans étaient très difficiles. J'ai vécu 10 ans dans les insultes. On se parlait avec des insultes. On ne programmait jamais ensemble l'avenir de nos deux enfants. Et puis j'ai opté quitter mon mari il y a 2 ans.
Certes, cette pratique ancestrale burundaise avec des valeurs positives de respect et de cohabitation pacifique entre les couples mariés ou pas. Aujourd'hui, la majorité des femmes burundaises ne supportent plus d'être maltraitées par leur conjoint. Cet homme marié, père de 2 filles, revient sur la définition initiale de cette coutume burundaise.
Pour nous, elle n'est pas toujours d'actualité avec l'évolution du monde que nous vivons. Mais il y a toujours des Bashingana et des Bafasun qui la font respecter. Niko Zumwakpa, ça veut dire que des fois, une femme peut se plaindre comme quoi elle est maltraitée et pense que la meilleure solution, c'est le refuge chez son père et sa mère. Donc, si tu veux vraiment fonder un foyer stable, vois ton mari au visage de ton père qui est devant toi. La femme de même, le visage de sa mère. S'il y a quelqu'un à respecter, s'il y a quelqu'un qui vous aime énormément, ce sont les deux parents. Il y a toujours des malentendus, ça c'est normal. Mais trouver le refuge chez elle ou chez lui, c'est pas la solution.
Cet autre homme, sexagénaire, estime que la solution dans un couple réside dans l'échange mutuel entre les conjoints qui peuvent trouver ensemble une solution à leurs différends.
Il y a moyen de supporter ou de ne pas supporter. D'un côté, supporter, ça dépendra de combien de fois vous êtes maltraité. Chez les hommes qui tapent les femmes, moi je les dirais qu'ils peuvent cesser. C'est pas les bâtons ou les gifles qui donnent des leçons. Mettez-les à côté, causez, il y en aura la solution.
Causerie, échange, la vie en commun entre les conjoints burundais, malgré cette coutume de Niko Zumwakpa, mérite plus d'attention entre la femme et l'homme pour le bonheur des enfants, selon un adage burundais qui appelle à plus de respect entre les couples. Christophe Nkourouziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Hausse des contrôles de routine sur les routes de N'Djamena au Tchad. Depuis une semaine, la police nationale traque les conducteurs pour des vérifications de pièces administratives. Mais certains acteurs de la société civile accusent les autorités de chercher à renflouer les caisses de l'État au moment où le pays vit une crise économique aiguë. Le reportage sur place d'André Kolmajingar.
En 2 semaines de contrôle de routine, la police nationale affirme avoir saisi 1783 motos qui circulent avec de fausses plaques minéralogiques et ou sans plaques. En date d'aujourd'hui, plus de 1000 motos sont retirées par les propriétaires contraints à se conformer à la législation tchadienne. 62 véhicules à 4 roues en situation irrégulière, dont 11 circulent sans plaques et 51 en vitre fumée, alors qu'il est strictement interdit à ce genre d'engin de circuler sur toute l'étendue du territoire national. Contrôle diversement apprécié par les usagers de la voie publique.
Le travail de la police, c'était bien. C'est tout juste pour nous protéger que toutes les motos doivent être en règle. Parce qu'il y a d'autres motos, quelqu'un peut voler et il peut aller vendre à une autre personne et la personne va circuler avec.
Il n'y a même pas une appréciation là, quoi. Il n'y a même pas le délai donné par l'État comme ça pour le contrôle. Ça nous a vraiment choqués.
Ce qu'ils font est bon, mais malheureusement, ils font aussi des mauvaises choses. Quand tu veux entrer, vérifier, ils refusent d'entrer.
Pour le président du collectif tchadien contre la vie chère, Gamnaël Nelly Versinis, cette opération est un business réussi des autorités en charge de la circulation routière et demande au gouvernement de sursoir à cette mesure.
En réalité, sur le terrain, c'est de l'arnaque. C'est des mesures qui sont venues encore allonger la misère de la population tchadienne déjà agonisée par la chèreté de vie. Que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement tchadien n'arrive même pas à juguler cette crise. Que moi, je qualifie toujours de l'Ebola tchadien. Depuis que le président de la République a pris une décision pour réduire 50% des intérêts de la police, nous savons pertinemment qu'ils vont répercuter sur les consommateurs finaux. Donc en réalité, cette mesure n'est pas la bienvenue. Nous demandons au gouvernement de patienter pour que lui-même, le gouvernement, résout d'abord le problème de cette crise avant de se rabattre sur les paisibles citoyens.
Argumentation balayée d'un revers de la main par le commandant adjoint de la compagnie de la circulation routière, colonel Didina Bessa Debaï. Pour lui, ces mauvaises langues cherchent depuis toujours à jeter des discrédits sur les agents de la police nationale.
Il est de notre devoir de contrôler les engins qui ne sont pas conformes et chercher à les mettre en règle. Acheter une moto, c'est pas moins de 500 000 francs. Faire le dédouanement plus la carte grise, ça ne peut pas dépasser également 100 000. Bien sûr, c'est un moment dur, mais les 100 000 francs pour faire la carte grise plus le dédouanement, c'est pas ça qui leur manquera. Ces mauvaises langues, c'est pas aujourd'hui qu'on les reçoit. Depuis toujours, la police est toujours mal vue. Je pense qu'on a fait au moins 2 ou 3 lieux. Est-ce que vous avez constaté qu'un policier a pris 100 ou bien 500 francs mettre en poste? C'est notre travail régalien, on doit l'assumer.
André Kodnoumadingar Ndiamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les musulmans célèbrent dans quelques jours l'Aïd al-Adha ou Tabaski. Au Sénégal, la vie est rythmée depuis plusieurs jours par les préparatifs de cette fête. Le mouton est un casse-tête, les habits également coûtent de plus en plus cher. Reportage au marché HLM en plein cœur de Dakar, Seydina Bagay.
Cette année, les ventes ne marchent pas tellement, car les pluies fréquentes nous obligent à couvrir nos produits en permanence, ce qui restreint leur visibilité.
Comme major, les marchands ne sont pas vernis à cause de l'hivernage, contrairement aux tailleurs qui se frottent les mains. Au milieu des crépitements de ces machines, Lassana Diarra confie ses bonnes affaires.
En ce moment, on ne se plaint pas trop, car les affaires marchent bien. D'habitude, c'est les coupures d'électricité qui nous handicapaient. Mais maintenant, il n'y a presque plus de délestage. C'est plutôt nos clients qui nous posent des soucis avec leurs nombreuses réclamations et leurs pressions constantes. Mais nous essayons toujours d'être compréhensifs, car à la fin, on y trouve notre compte. Malgré la conjoncture, les tissus et les boubous coûtent au minimum entre 10 et 15 000 francs.
Non loin de l'atelier de Lassana, Hassan Diop se pavane au milieu de ses dizaines de moutons. Il souhaite les vendre à bon prix, mais il est aussi inquiet pour certains chefs de famille.
Au Sénégal, les moutons ne sont pas accessibles pour tous. Même quand il y en a beaucoup, les prix ne sont pas très abordables. Et c'est assez normal, car nous achetons les moutons chers. Ensuite, nous nous occupons d'eux pendant plusieurs semaines. De ce fait, à la revente, nous sommes obligés de penser à faire des bénéfices, ce qui fait que les prix sont toujours élevés. D'un côté, nous pensons aux chefs de famille qui tirent le diable par la queue pour trouver un mouton et passer la tabaski dignement. De l'autre, nous sommes conscients qu'il y a des gens qui peuvent acheter nos moutons, quel que soit le prix.
Pour Ndaye Lissé Gueye, il est tout à fait normal de faire toutes ces dépenses pour une fête.
aussi prestigieuse que la tabaski.
C'est une tradition bien sénégalaise. Personne n'y peut rien. Au Sénégal, nous sommes des musulmans qui tenons beaucoup à cette fête, qui d'ailleurs est la plus grande et la plus belle pour notre communauté. C'est pourquoi nous mettons tout ce que nous avons. Toutes nos économies y vont. Nous achetons des chaussures pour les enfants, des moubous et tout ce qui peut rendre cette fête belle. C'est vraiment une grosse dépense financière.
Au Sénégal, les traits culturels déteignent sur la pratique religieuse au point que la tabaski y est fêtée avec un faste qui n'a pas son pareil dans la sous-région africaine. Même le mouton, élément le plus symbolique de cette fête, est devenu un véritable casse-tête pour les chefs de famille qui sont obligés d'en trouver le plus cher possible pour le simple paraître social. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La tempête Harvey, qui a déjà causé de graves inondations au Texas, s'apprête à frapper de nouveau la ville de Houston. Les autorités attendent plus de 30 000 personnes dans les centres d'accueil suite aux inondations. La situation est toujours critique, notamment à cause des barrages proches de Houston avec un risque de rupture des digues. Pour faire un point sur la situation, Claire Morin-Gibourg a joint Vincent Florent, qui vit près de Houston.
Donc moi, en fait, j'habite à peu près à 45 minutes au nord de Houston. Il faut savoir que Houston, c'est une ville assez plate. En fait, il y a très peu de collines, etc. Mais la ville dans laquelle je suis, qui s'appelle les Woodlands, c'est une petite ville au milieu de la forêt et on est un petit peu surélevé. Donc, je n'ai pas eu d'inondation directement dans mon quartier. Donc, je suis assez chanceux par rapport à ça. Par contre, en fait, la ville a un lac qui a débordé, donc les rivières ont débordé. Donc, il y a plusieurs évacuations volontaires qui sont en cours et toutes les routes sont bloquées. Donc, en fait, c'est un peu le cas de plusieurs quartiers à Houston qui n'ont pas été forcément inondés. Mais en fait, on est tous bloqués pour un certain temps.
Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez plus du tout sortir de chez vous ni prendre votre voiture. Vous êtes complètement bloqué.
En fait, je peux prendre ma voiture, mais je pense que je ne peux pas faire plus qu'un kilomètre avec. Toutes les routes sont bloquées puisque, en fait, dès que le niveau était un peu trop bas, certains passages ont été complètement bloqués par l'eau. Et là où il y a des rivières, en fait, toutes les routes ont été fermées en fait par les autorités.
Alors, vous êtes également moniteur d'équitation. Vous avez plusieurs chevaux. J'imagine que c'est une situation très angoissante, les inondations. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau-là?
En fait, l'année dernière, on a eu plusieurs épisodes d'inondations qui ont été assez compliqués à gérer parce que bouger 20 à 50 chevaux quand il y a un mètre d'eau, c'est très compliqué. Et donc, il y a eu au cours du début de la semaine, en fait, beaucoup d'épisodes d'évacuation vers les centres équestres qui sont situés un petit peu plus en hauteur. Donc là, le centre équestre dans lequel j'ai mes chevaux, pour l'instant, n'est pas inondé. Donc on a également récupéré certains chevaux qui ont évacué d'autres centres équestres vendredi, avant que vraiment la situation se dégrade. Le problème, c'est que tous les chevaux qui sont dans des endroits où qui ne sont plus accessibles et qui commencent à prendre l'eau, donc il n'y a vraiment plus rien à faire. En fait, là, on a eu une toute petite accalmie aujourd'hui, mais la météo prévoit que la tempête tropicale revienne encore une fois sur Houston. Et donc, on attend encore plus de pluie. Donc, aujourd'hui, ce qui est le plus menaçant, c'est que les inondations, en fait, continuent, que le niveau de l'eau de toutes les rivières continue à grimper sans que ça s'arrête, quoi. Au moins jusqu'à jeudi.
C'était Vincent Flores, joint au Texas.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Fin de cette édition des matinales. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Anne Albertson. À la console, Greg Burns. Présentation, Abdourahmane Diarra. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.